VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Présidentiel au Libéria, il y aura bel et bien un second tour de scrutin entre George Weah, sénateur et légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai. Selon la commission électorale, aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue lors de l'élection du 10 octobre, Abdourahmane Diaye.
Cinq jours après le scrutin pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, la commission électorale conclut qu'un second tour sera nécessaire après le dépouillement de 95% des bureaux de vote. Et d'après ces résultats, George Weah arrive en tête avec quelque 572 000 voix, soit 39% des suffrages, nettement devant Joseph Boakai, qui lui a 427 000 voix, soit 29% des suffrages. Il n'y a plus de doute à présent sur la nécessité d'un second tour, a donc déclaré le porte-parole de la Commission électorale nationale, Henry Flomo, lors de l'annonce de ses résultats partiels. Le taux de participation est de 74,5%. Les 18 autres candidats sont largement distancés par les deux favoris. Selon la Constitution, le second tour est organisé le deuxième mardi qui suit l'annonce du résultat final. La présidente sortante, prix Nobel de la paix 2011, Ellen Johnson Sirleaf, a estimé le jour du scrutin que le Libéria était prêt pour la transition.
En Sierra Leone, le chef de l'État Ernest Bai Koroma a désigné le ministre des Affaires étrangères Samora Camara comme candidat de son parti APC, le Congrès du peuple au pouvoir, à l'élection présidentielle du 7 mars 2018. Monsieur Camara, 66 ans, a été sélectionné lors de la convention du parti à Makeni, ville natale du président Koroma, dans le centre du pays. De son côté, le SLPP, le Parti du Peuple de Sierra Leone, principale formation d'opposition, a choisi comme candidat à sa convention à Freetown, la capitale, un ancien général, Julius Maada Bio, 53 ans, déjà candidat en 2012 et ex-chef d'une jeune militaire qui a dirigé le pays pendant quelques mois en 1996. M. Maada Bio avait été battu par Ernest Bai Koroma aux élections de 2012. Retour sur la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution burkinabé, Thomas Sankara. Ici à Washington, la Galerie nationale des arts a projeté dimanche un film documentaire sur les faits marquants de la courte présidence du capitaine Sankara. Et samedi, des centaines de personnes, dont beaucoup de Burkinabés, se sont réunies pour une conférence débat autour des idées de Thomas Sankara. Le point avec Eric Manirakiza.
Environ une dizaine d'orateurs se sont succédés pour vanter la personnalité et la vision de Thomas Sankara. Écoutez le sens que Thomas Sankara a donné à son peuple en définissant sa politique économique dans une interview exclusive accordée à Idrissa Seydou Dia de VOA Afrique.
Quand on dit peuple, bien entendu, on s'oppose à toutes ces minorités bourgeoises qui exploitent, qui oppriment. On s'oppose aussi à tous ces valets locaux qui font aujourd'hui le jeu des multinationales de l'impérialisme. On s'oppose également à tout ce qui privilégie le profit et rien que le profit au détriment du peuple et de son bonheur.
30 ans après, Pauline Sankara, la sœur de Thomas Sankara.
Une richesse qui nous a laissé la famille Sankara, c'est qu'on marche la tête haute. La dignité.
Le coup d'État de 1987 a porté au pouvoir son compagnon Blaise Compaoré. Des voix continuent de réclamer vérité et justice. Pas question de se lasser, dit Djomé Ndongo Faye, coordinateur adjoint du mouvement fédéraliste panafricain.
Sa conviction, c'était libérer l'Afrique de la domination étrangère et unir l'Afrique. Un objectif qui devait se réaliser un jour ou l'autre. Totalement libérer l'Afrique de domination étrangère, montrer aux Africains qu'ils doivent être fiers d'eux-mêmes et qu'ils peuvent prendre en charge leur destinée.
Djomé Ndongo Faye, coordonnateur adjoint du mouvement fédéraliste panafricain. Violence en RCA, une coalition d'ONG internationales demande au secrétaire général de l'ONU de renforcer la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, et de s'engager à mettre fin aux violences contre les civils dans le pays. Antonio Guterres a reçu les représentants de ces ONG la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York en amont de sa visite à Bangui prévue du 24 au 27 octobre. Les précisions d'Abdulaziz Sali, coordonnateur du collectif des étudiants musulmans centrafricains.
La situation à Bangassou, à Bokaranga et très récemment à Kembe, vraiment, c'est une situation qui trouble beaucoup la population. Et les gens s'interrogent vraiment sur l'efficacité de la MINUSCA. Parce que ce problème de communication qui existe entre la MINUSCA et la société civile, face à tout ce qui arrive à la population, sans protection, je pense que ça, c'est des questions sur lesquelles la MINUSCA, la communauté internationale, doit s'appuyer pour répondre. En urgence, il y a un besoin d'urgence d'augmenter l'effectif de cette mission et également d'améliorer la qualité des soldats de la paix pour répondre efficacement aux besoins sécuritaires dans ce pays.
Abdulaziz Sali, coordonnateur du collectif des étudiants musulmans centrafricains, a interrogé dans le studio de la Voix de l'Amérique à New York par Jacques Aristide.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, la candidature à la présidentielle de 2018, annoncée le 8 octobre dernier par l'avocat international anglophone Akere Muna, suscite beaucoup de commentaires, notamment sur ses positions en faveur du fédéralisme. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Akere Muna, candidat à l'élection présidentielle de 2018, l'annonce n'a laissé personne indifférent à Yaoundé. Surtout que cette intention de candidature provient d'un Camerounais anglophone dans un contexte de troubles dans les deux zones anglophones du Cameroun.
C'est la toute première véritable candidature. C'est quand même le fils de Tandem Muna qui a été vice-président du Cameroun fédéral. C'est une candidature qui est prise très au sérieux par le camp d'en face, mais également par les anglophones.
C'est quelqu'un qui est une véritable personnalité sur le plan politique. Je vous rappelle qu'il a été bâtonnier. Il peut récolter également des voix, même au niveau de ceux qui sont, par exemple, francophones.
Transfuge du social-démocratique Front, principal parti de l'opposition, dirigé par un autre anglophone, John Fondi, la candidature de Maître Akere Muna suscite aussi des réactions auprès de ses anciens camarades d'hier. Honorable Joshua Oshi, vice-président du Social Democratic Front.
Est-ce que moi, à sa place, je l'aurais fait maintenant? Non. Est-ce que moi, à sa place, je l'aurais fait de cette façon-là? Encore une fois, non. Il a fait son choix, lui, que je respecte. Mais malheureusement, dans ce pays, on a une sorte d'envie d'avoir des candidats. Personne ne va plus loin sur les programmes, etc.
Dans la déclaration de son intention de candidature, le fils de l'ancien vice-président de la République fédérale du Cameroun s'est présenté comme le précurseur d'une nouvelle république, Maître Akere Muna.
Nous devons marcher vers une nouvelle république. Une nouvelle république qui trouve sa force dans la diversité. J'ai donc pris la décision de faire partie de la solution que notre pays réclame, à savoir la création de cette nouvelle république.
Âgé de 65 ans, sans formation politique jusqu'ici, Akere Muna s'est dit favorable au fédéralisme, une forme d'État qui divise actuellement l'opinion au Cameroun. Calcul ou erreur politique, professeur Eric Mathias Owonangini, enseignant à l'université de Yaoundé 2, analyse.
Il est évident que le positionnement de M. Akere Muna pourra satisfaire ceux qui, comme lui, sont favorables au fédéralisme, mais ne sera pas nécessairement accepté par ceux qui maintiennent l'option de l'État unitaire décentralisé. Ce positionnement sont déjà critiqués par les partisans anglophones du séparatisme.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Somalie, colère à Mogadiscio après l'attentat de samedi dans le centre de la capitale, le plus meurtrier qu'ait jamais connu le pays. Le gouvernement somalien poursuit ce lundi ses efforts pour aider les familles des victimes de l'attaque au camion piégé qui a fait au moins 276 morts et 300 blessés. Selon le tout dernier bilan du ministère de l'Information, Michel Joseph.
Des centaines de personnes sont descendues hier dans les rues de Mogadiscio pour exprimer leur colère après l'attentat au camion qui a frappé le centre de Mogadiscio. Les manifestants ont scandé des slogans anti-violence et brandi des portraits du président et du premier ministre. Certains portaient des tresses de couleur rouge et blanche dans les cheveux en signe de deuil. Les habitants de Mogadiscio ont partagé sur Facebook des photos et noms de personnes disparues et certains ont publié des images parfois horribles de gens tués pour informer leur famille de leur mort.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.